qu'il dit en commun. Prends tout. Prends tout, Seigneur. Rien à moi, tout à toi. Fais ce que tu veux avec ce que je considère mien. Seigneur, si tu veux le prendre et l'utiliser pour autre chose que ce que moi je le destinais, que ta volonté soit faite. Seigneur, mon Dieu, alors que cette année commence, aide-moi, Seigneur, s'il te plaît, à marcher d'une façon plus ferme, plus victorieuse, plus consacrée, plus fidèle que jamais avant. Aide-moi à progresser dans l'amour du prochain, à progresser, Seigneur, dans la fidélité, à progresser dans la prière, à progresser dans la lecture de ta parole, à progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et à te placer en priorité dans ma vie. Prends tout, Seigneur. Prends tout. Tout ce que je voudrais garder et auquel je suis attaché, mais qui n'est que poussière. Prends tout, Seigneur. Prends tout. Cette affection énorme, immense, que j'ai pour certains de mes semblables. Merci, Seigneur. Mais cela, je te le livre aussi. Que mon amour soit d'abord pour toi. Que mon amour soit en priorité pour le Sauveur qui m'a sauvé et qui m'a donné la vie. Veuille nous parler encore, je t'en prie, Seigneur. Merci. Je vous ai dit tout à l'heure, à vous qui étiez ici, que j'allais aujourd'hui, en ce premier dimanche de l'année 2011, vous prêcher un message qui peut-être ne vous plaira pas. Un message qui peut-être, à votre avis, n'est pas un message qu'on devrait prêcher le premier dimanche de l'année. Peu importe, ceci était sur mon cœur et je pense que dans les temps où nous vivons, nous devons faire face à la réalité. Parler d'une meilleure année, parler de prospérité, parler de paix durable, parler d'équilibre économique et social, parler, tout ça c'est bien, pourquoi pas. Mais sera-ce une réalité? Les années passées nous ont donné des leçons bien précises sur ce qui peut se passer même à travers un seul homme. Nous souvenons du scandale de Madoff et des conséquences mondiales au niveau des banques. Nous avons vu le pouvoir d'un seul homme vis-à-vis de milliers de millions, pouvoir financier, pouvoir politique, pouvoir économique, pouvoir que sais-je. On en parlait d'un, duquel j'ai nommé le nom, mais il y en a combien d'autres? Combien d'autres? Avec des troubles, des choses, des manipulations à gauche et à droite, de nations entières, nations occidentales, nations unies, nations désunies, des manipulations à travers le monde, se mêlant de choses qui se passent ailleurs, avec la prétention d'une soi-disant démocratie qui est jamais démocrate aujourd'hui. La vraie démocratie se démocratise de plus en plus et la voix réelle et l'opinion réelle de l'ensemble est, je peux presque dire, jamais respectée. Jamais respectée, ce n'est qu'une illusion. Nous voyons tout cela dans cette année passée. Ce n'est qu'une illusion. On va dépenser des millions de dollars pour mettre un papier dans les urnes, mais quelle valeur a ce papier lorsque déjà c'est décidé à l'avance et qu'on a manipulé de tant de façons pour pour mettre celui que il plaira à tout le monde. Quand je parle de tout le monde, je parle aussi des pays étrangers. Nous assistons à des manipulations énormes aujourd'hui. Que va-t-il se passer dans l'année qui arrive? Un peu plus. Vous savez, nous devons reconnaître que la société humaine ne va pas en s'améliorant, mais en se dégradant. Et s'il y a une telle dégradation, ceci vient du péché avant tout. La dégradation vient du péché sous toutes ses formes, du péché des chrétiens, du péché des religieux, du péché des païens, du péché de la masse humaine. Car le christianisme aujourd'hui est loin de représenter le Christ vivant, le Christ glorieux, le Christ saint. Et pourtant, si Dieu patiente encore, c'est parce qu'il a, ici et là, à travers le monde, de véritables enfants qui lui appartiennent, un peuple nombreux, nombreux dont nous ne connaissons pas le nombre, mais qui, je le pense, je le crois, je le sais, qui augmente, car il vient bientôt au milieu de ce chaos moral, de ce chaos spirituel, de ce chaos économique. Il y a quelque chose qu'on ne verra jamais publié dans les journaux, on ne verra jamais annoncé sur les médias, mais quelque chose qui se passe, car Dieu se prépare un peuple. Son royaume, il l'établit dans le cœur des hommes et des femmes. Là, dans le silence, lorsque la parole est annoncée, d'une façon ou d'une autre, personne ne sait exactement ce qui se passe dans le cœur de l'individu. Il y en a qui sont des hypocrites et qui prétendent que. Il y en a d'autres qui disent rien, mais ils ont compris et ils mettent leur vie en règle. Et il y a une multiplication à travers le monde, à travers les médias qui parcourent le monde, que ce soit en Chine, que ce soit dans les pays de l'islam. Dieu trouve un moyen. Dieu trouve un moyen. Car il aime les hommes de tous les peuples, de toutes les races et de toutes les nations. Et devant lui, devant le trône de gloire, se présentera toutes ces nations comme une mer immense d'hommes et de femmes de toute langue, de toute tribu et de toute race qui auront reçu le Sauveur de gloire comme leur Seigneur et qui se prosterneront devant son trône. Ce jour arrive. Ne vous lamentez pas en pensant que vous êtes une minorité. Frères, sœurs, tu ne connais pas et tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Jésus le Seigneur est venu sur cette terre pour s'acquérir un peuple, pour reconquérir cette terre qui lui appartient. Jésus-Christ envoyé du Père dans un corps humain, la divinité dans un corps humain que nous avons célébré au moment de Noël, à travers une jeune fille appelée Marie, auquel il lui a donné une grâce. C'est une grâce que de porter le Fils de Dieu, celui qui avait une nature de chair par sa mère, mais une nature divine par celui qui avait créé dans le sein de cette femme, celui qui serait appelé le Fils de Dieu. Son plan se poursuit et se continue. Jésus. Parmi les siens, il est venu. Il a donné sa vie pour nous tous. Et il va revenir. L'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Nous aimons parler de cet agneau de Dieu, de ce Jésus merveilleux. Nous aimons l'image de Jésus comme étant le bon berger qui prend dans ses bras la faible brebis. La porte pour la mettre en sécurité. Le bon berger qui cherche la brebis perdue. La brebis perdue dans les endroits les plus escarpés. Et il la cherche jusqu'à ce qu'il la trouve. Nous aimons le bon berger. Nous aimons l'histoire du bébé couché dans une crèche, de celui qui a pris la nature humaine pour sauver les hommes, dans un corps humain, tout en étant Dieu. Il était la parole de Dieu qui a été faite chair et qui a habité parmi nous. Nous aimons l'histoire de Jésus lorsqu'il parcourait les routes de la Galilée et de la Judée, et qu'il guérissait les malades, qu'il ressuscitait les morts, qu'il ouvrait les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Nous aimons cette histoire de ce Jésus qui, avec grande sagesse et intelligence, fermait la bouche de ses contradicteurs religieux. Nous aimons l'histoire de ce Jésus qui nourrit une grande foule de plus de 5000 hommes, plus les femmes et les enfants, avec 5 pains et 2 poissons. Quand nous pensons à ce Jésus, nous nous émerveillons. Alors qu'il est sur le mont de la Transfiguration et que là, il apparaît devant ses disciples, Jacques, Jean et Pierre, avec Moïse et Élie. La révélation de Dieu par les prophètes. Moïse, la loi, la connaissance de la volonté de Dieu, de la loi de Dieu. Jésus-Christ, la grâce, le plan de Dieu est complet. Nous aimons entendre ces histoires extraordinaires, merveilleuses. Ce Jésus, malheureusement, les hommes l'ont rejeté, ils ne l'ont pas reconnu. Les religieux d'abord, qui l'ont livré aux païens pour le crucifier, il mourut sur une croix, ô tragédie. A-t-il failli dans sa mission pour payer le prix de notre rançon, pour prendre notre condamnation? À ce moment-là, personne ne le comprenait. Personne ne le comprenait. Mais combien profondément nous sommes touchés, touchés et émerveillés à la vue du ressuscité qui est sorti du tombeau plus que vainqueur. Il a écrasé la tête du serpent. C'est vrai, il a été blessé à cause de cela. Et cette parole avait été dite là, dans le jardin d'Éden, tout au commencement. Il t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. Je m'émerveille à la vue de tout cela parce que tout devient plus clair, plus clair. Tout ce que les prophètes ont écrit, tout ce que les anciens ont écrit, cela se révèle dans le grand victorieux qui est venu accomplir la loi de Dieu. Dans sa compassion, il s'est préparé un peuple saint qui l'a reçu et qui le reçoit délibérément, par choix, non pas par obligation, par choix, qui ont dit « Oui, Jésus, je veux te suivre. Pardonne-moi mes péchés, lave-moi dans ton sang. » Voilà le genre d'homme avec lequel il va former son peuple. Et il est en train de le former. Je m'émerveille devant le plan de Dieu et la victoire du tombeau ouvert. Mais il y a une image de Jésus qui étonne et qui semble ne pas s'accorder avec lui. Et cette image de Jésus est rapportée par les 4 évangiles. Et il semble que cet incident s'est produit 2 fois. Il est rapporté par les 4 évangiles. Nous allons lire pour cela dans Jean au chapitre 2, à partir du verset 13 jusqu'au verset 17, il est dit là. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva établis dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs. Il fit un fouet de cordes et les chassa tous dehors du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs renversa les tables et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de ma maison, de la maison de mon père, une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il était écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » L'émotion me saisit lorsque je lis cette dernière phrase. Le zèle de ta maison me dévore. Pourquoi dans ta maison tant de scandales? Pourquoi dans ta maison tant de chutes? Pourquoi dans ta maison tant de sottises et d'impuretés? Pourquoi dans ta maison tant de vols et de méchanceté? Pourquoi dans ta maison, dans ceux qui se disent chrétiens, tant de témoignages contraires? Pourquoi dans ta maison tant de paresse à lire la parole de Dieu, de paresse à passer du temps devant toi en prière, à de paresse et de fausse timidité de proclamer ton nom et de prendre une position pour la vérité, pour la sainteté, pour la justice? Le zèle de ta maison me dévore. Et dans le fond de mon âme, je pleure, je crie. Et je dis, pourquoi, Seigneur, ton Église jusqu'à maintenant est si apathique? Pourquoi ton Église manque de dynamisme à ce point, quoique nous disions que nous sommes des pentecôtistes, que nous croyons à la puissance du Saint-Esprit? Pourquoi, Seigneur, le zèle de ta maison me dévore? Et Seigneur, je voudrais te prendre comme modèle dans ce zèle. Et pourtant, je ne suis pas arrivé encore au zèle que tu avais. Et dans mon cœur, je suis déterminé plus que jamais. Alors que tu me donnes encore du temps, alors que tu me donnes encore des années peut-être, cette décision t'appartient. Seigneur, que le zèle de ta maison m'embrase encore plus, afin, Seigneur, que ta maison soit une maison de prière et non pas une maison de trafic. Et non pas une maison de trafic de toutes sortes. Et non pas un lieu où le voleur trouve une place pour se cacher. Et non pas un lieu où le menteur trouve une place pour pouvoir mentir. Où le magouilleur ne trouve pas une place pour ses magouilles, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit au niveau du centre médical, que ce soit au niveau de toutes nos œuvres sociales, que ce soit au niveau de l'Église elle-même, qu'il n'y ait pas de place pour de telles personnes. Le zèle de ta maison, toutes nos actions, toutes les actions sociales et autres que nous voulons faire, c'est à cause du zèle de ta maison, pour attirer ces hommes et ces femmes du dehors à Jésus-Christ. Et que dans tous ces milieux, il y ait Jésus qui siège, et que tous sachent qu'ici on prie, que ce soit au centre médical, on prie, que ce soit à l'école, on prie, que ce soit n'importe où, on prie. Pourquoi? Parce que si nous ouvrons de telles institutions au sein de l'Église de la Borne, c'est pour que Jésus y règne, et ce n'est pas pour que la magouille y règne, et ce n'est pas pour que les voleurs y règnent, et ce n'est pas pour que les politicards mensongers y règnent. Nous voulons la vérité, nous voulons la sainteté, nous voulons la justice, nous voulons le témoignage, ici, dans notre Église de la Borne, et dans toutes ses extensions, et dans toutes les œuvres sociales qu'elle est appelée à faire. Et c'est ainsi que nous pourrons avoir un témoignage à la gloire de Dieu. Le zèle de ta maison me dévore. En ce jour-là, Jésus a pris le fouet. Je dis ces choses avec les larmes dans les yeux, mes frères. Nous ne sommes pas là pour masquer les irrégularités de qui que ce soit. Nous ne sommes pas là pour masquer les petites combines sordides de qui que ce soit. Nous sommes là pour qu'il y ait lumière et transparence, parce que notre Dieu est lumière et transparence. Et nous voulons la lumière et la transparence, où que ce soit. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous exhorte à nous exhorter les uns les autres. Elle nous demande de nous exhorter les uns les autres. Et non pas de fermer la bouche, je ne veux pas accuser. Tu vois ton père, ton frère qui pêche et tu veux le camoufler, tu es coupable comme lui. Tu prends sur toi son péché. Le péché doit être exposé. Il n'y a pas de place pour le péché dans l'Église de Jésus-Christ. Le péché doit être exposé. Tu le sais, tu le dénonces. Tu le sais pas, tu n'es pas responsable. Tu le sais, tu le dénonces. Ah, je ne veux pas accuser. Moi, je ne veux pas entendre de telles paroles. Ça m'énerve. Combien de fois j'entends ces paroles ? Oh, mais seulement je ne veux pas accuser. Quoi, je ne veux pas accuser ? Ce que tu sais, tu dois le dire. Si tu n'es pas sûr, tu cherches des preuves. Mais le mal doit sortir. Il doit être vomi. Parce que tu es tiède, parce que tu es ni froid ni bouillant, mais parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Nous devons avoir le sens de la vérité, le sens de la sainteté, le sens de la crédibilité, le sens de la justice. Et c'est seulement ainsi que nous arriverons à influencer notre société. Nous pouvons bien prêcher l'évangile ici, mais si ailleurs dans nos œuvres sociales à gauche et à droite on fait de la magouille, quel est le témoignage ? Un contre-témoignage ! Un contre-témoignage. Si à l'école, on fait des magouilles de toutes sortes, ce sera un contre-témoignage. Nous voulons la vérité et la lumière. Une lumière qui chasse les ténèbres. Pas de place pour les ténèbres. Jésus est rentré au temple. C'est près de la Pâque. Et il voit là, dans la grande cour du temple, comme un grand marché public. Il est indigné en lui-même. Il prend une corde. Jésus, le doux Jésus. Il prend une corde. Et avec cette corde, il commence à taper à gauche et à droite, à renverser les tables, à affoler le bétail qui est là. Le bétail bouge, ça bouge de partout. Les disciples ont sûrement été choqués de ce spectacle. Leur doux Jésus. Et la foule qui est là tout autour, devant lui, cette foule est choquée. Que s'est-il passé en ce jour? Il n'est pas dit que les disciples de Jésus sont intervenus. Non, ils n'ont pas intervenu dans cette affaire. Dans cette affaire du nettoyage du temple. Du nettoyage du temple. Je vous ai déjà parlé des balais qu'il faut utiliser. Comme Asa avait utilisé pour débarrasser Israël de l'idolâtrie. Et là, Jésus, il prend une corde pour balayer le temple. Il intervient afin de nettoyer le temple. Les disciples sont là, ouvrant de grands yeux, avec la bouche à moitié ouverte. Ne sachant que faire, ils essayent de comprendre l'intervention de Jésus au milieu de cette foule d'hommes et de femmes. Ils essayent de comprendre, ils sont là, et ils ne bougent pas, ils n'agissent pas, ils laissent Jésus faire tout cela tout seul, et ils essayent de comprendre. Au milieu de cette grande cour, là, au temple. Transformé en trafic de toutes sortes. Jésus prit une corde et s'en servit comme d'un fouet. Paf, paf, à gauche, à droite, des hommes, des bêtes, n'importe quoi. Oh, il est fâché, ça je vous assure, en colère. Mais pourquoi? Il chasse les bœufs, il chasse les brebis, hors du temple, tout en renversant des tables et des sièges, en dispersant la monnaie des changeurs, renversant les tables et tout l'argent, plop. À cette époque-là, on n'avait pas l'argent papier. On n'avait que des pièces métalliques. Il interdit même aux gens de traverser le temple avec leurs marchandises de toutes sortes. Voilà la porte, vous sortez par là. Non, vous ne traversez pas le temple. Sortez d'ici avec vos affaires. Vous ne pouvez pas amener tout cela à travers cette place. Les bœufs, les brebis se bousculent, les tables des marchands sont renversées, les cages de pigeons sont renversées par terre, les plumes s'envolent, la poussière. C'est la panique. Pensez un peu au spectacle. La panique et l'affolement sur cette grande place. Jésus frappe avec la corde à gauche, à droite. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Ses gestes sont énergiques. Sa voix tonne comme celle du tonnerre. Ah oui. On parle. Le bétail beugle. Les moutons bêlent. On crie. On s'affole. D'une voix autoritaire, Jésus-Christ, hors d'ici. Allez faire vos affaires et spéculations ailleurs. Jérémie 10, 10 nous dit ceci. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Lui, le Dieu vivant, est le roi éternel. La terre tremble devant sa colère. Et les nations ne supportent pas sa fureur. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Là, vous avez la fureur de Jésus homme. Que sera la fureur de Jésus ressuscité et glorifié? Sa fureur à cause de ce qu'on appelle l'Église aujourd'hui, où on admet toutes sortes de choses. On admet les idoles, on admet les démons, on admet toutes ces choses-là. On peut être chrétien et adorer les démons. On peut être chrétien et adorer les fétiches. On peut être chrétien et aller aux féticheurs. On peut être chrétien et être un ivrogne au bar au Nouvel An. On peut être chrétien et voler le patron. On peut être chrétien et détourner les fonds publics. On peut être chrétien et commettre adultère. On peut être pasteur et divorcer deux fois, trois fois. On peut être pasteur et commettre adultère. Oui, mes frères, ça se passe au Congo. N'est-ce pas une raison de prendre le fouet et avec colère débarrasser la maison de Dieu de tous ces caricatures qui font la honte de l'évangile de Jésus-Christ. On se proclame chrétien et on fait n'importe quoi. On viole et on viole jusqu'à quand? Sa colère. Toute la place est bouleversée, secouée. La poussière vole de partout. Les disciples ne savent que faire, ils ne savent que dire, ils ne savent pas où se cacher. Que fait le maître? Mais au juste, que se passe-t-il avec le doux Jésus? Mais quelqu'un quelqu'un de si irrité, qui réagit de cette façon et qui manifeste son indignation de cette façon et même de façon physique, n'est sûrement pas dirigé par l'Esprit de Dieu. Voilà ce que vont dire les grands théologiens sages. N'est sûrement pas dirigé par l'Esprit de Dieu, allons-nous penser. Il n'a pas de tolérance. Il n'a pas de compréhension. Sa religion lui monte à la tête. Cesse ton langage hypocrite. Peut-être tu ne peux pas aimer ce que je te dis aujourd'hui. Peu importe, c'est la vérité qui vous affranchira. Mais on se pose la question alors, quelle est la raison? Quelle est la raison d'une telle colère? Quelle est la raison de cette colère? Eh bien, nous devons savoir que nous sommes dans les temps graves aujourd'hui, des temps où on se croit permis de faire n'importe quoi, de faire tout ce que l'on veut dans la maison de Dieu, pour tirer des bénéfices et des avantages personnels. Disons la vérité. Combien d'hommes et de femmes rentrent dans l'église pour chercher à avoir des avantages personnels? Ils étaient au chômage et tout d'un coup, alors, ils se disent, bon, rentrer dans l'église, c'est pas mal. Alors, ils viennent pour un temps. Après ça, ils disent, Dieu m'appelle, je veux le servir. Alors, ils disent, voilà, je suis un volontaire. 5-6 mois plus tard, ils vous disent, ah, voilà, mais j'ai besoin de vivre. J'ai besoin de vivre. Et alors, que se passe-t-il? Il s'introduit ainsi. Frère, sœur. Et c'est ainsi qu'il y en a qui sont pour la prospérité. Et ils pensent qu'en venant dans l'église, on aura la prospérité. La prospérité, on la cherche et on la prêche. Et ce n'est plus que le message de la prospérité. On veut la prospérité plus que la spiritualité. La spiritualité, qu'en faisons-nous? Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1er, il est dit. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est par ici que ça se passe, c'est pas là-bas. D'accord? L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Il y a toutes sortes de doctrines fausses, de démons, qui sont lancées dans le monde par des hommes qui se disent être des pasteurs, des révérends, des bishops, des je ne sais pas quoi encore. Il y a un peu de la parole de Dieu, et le reste, ce sont des inventions humaines, qui soi-disant sont des révélations. Quoi donc? Des révélations? Dieu va dire des choses contraires à ce qui est écrit dans le livre? Jamais! Nous avons le critère, la parole de Dieu. Mais voilà, on veut utiliser Dieu pour de l'argent, ou pour se donner une image populaire, pour la politique, pour avoir des voix du côté des chrétiens. On a un langage religieux, on l'a vu dans le passé, si je puis le dire, passé parce qu'on l'a vu. Dans le domaine politique, avec de fausses prétentions, pour gagner des voix afin de satisfaire ses propres ambitions. Et une fois qu'on est arrivé là où on voulait être, tout cela, on le jette par-dessus et on vit comme les païens. Combien dans notre pays ont voulu utiliser Dieu pour leur promotion personnelle? Des belles paroles, mais des œuvres contraires aux paroles. Des belles promesses, mais aucune réalisation de promesses. Une spiritualisation factice, mensongère. Des prédicateurs qui ne vivent pas ce qu'ils disent et prétendent représenter. Ils ne vivent pas ce qu'ils disent, ni ne vivent ce qu'ils prétendent représenter. N'est-il pas nécessaire que Jésus, de temps à autre, prenne un fouet et fasse un nettoyage de l'Église? Hébreux 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement, je souligne ce terme de volontairement, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, après avoir reçu la connaissance de la vérité, c'est une personne qui connaît la vérité, qui a la connaissance de la vérité. Mais après avoir connu cette vérité, on pêche volontairement, autrement dit parce qu'on veut pêcher et on sait qu'on pêche. Il ne reste alors plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrifiante du jugement et de l'ardeur du feu prêt à dévorer les rebelles. Il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Vous l'aviez piétiné, vous l'avez rejeté. Jésus est indigné. Il est en colère. Il prend le fouet. Sa maison est détournée du but voulu de Dieu pour des buts mercantiles de profit personnel en utilisant les choses sacrées à des fins profanes. Alors que tout le monde parle, crie, que les pièces de monnaie se répandent sur le sol, que les marchands crient, pour qu'on appelle la police pour ramener de l'ordre, Jésus-Christ au-dessus du chaos. Cette place ressemble plus à un marché de voleurs qu'à un temple. Cette église ressemble plus à une convention de voleurs qu'à une maison de Dieu. On est là anxieux pour voir combien d'argent on va ramasser à la fin de la convention. On est là anxieux et on arrive même à se battre entre plusieurs pour avoir une part de cet argent. On l'a vu ici au Congo. On l'a vu. Ésaïe a dit au sujet de cette place, Ésaïe 56, verset 7, « Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Pas une maison de trafic, mais une maison de prière pour tous les peuples. Ce sont ces paroles que Jésus lui-même rappelle à la foule. La foule en émoi est troublée en ce jour-là par son action. Comment peut-il accepter et fermer les yeux devant un tel scandale? Croyez-vous qu'il va fermer les yeux devant les scandales de ce qui se passe dans les églises dites chrétiennes aujourd'hui? Il est patient. Pourquoi une telle action? Essayons d'apprendre. Ces gens font leur travail. S'il y avait eu des journalistes en ces jours, ils auraient rapporté dans leurs journaux les protestations des marchands qui veulent défendre leurs droits. Ah oui. Et ils auraient écrit dans ces journaux, voilà, ces gens nous ont dit ceci, nous sommes au service du peuple. Nous pourvoyons aux besoins de ceux qui viennent au temple pour adorer. Nous sommes là pour assurer un service public. Comment ces gens pourraient-ils avoir les animaux pour les sacrifices? Il y en a qui habitent loin. Ils ne peuvent pas amener leurs animaux, leur bétail de si loin et passer à travers Jérusalem ainsi. C'est trop difficile et trop lent. Nous aidons le programme des cultes. Oh, la bonne excuse. Tout cela est juste, dans le fond, c'est vrai. Tout cela est juste. Et tel était le but de ce marché. Mais ces gens font un profit outrageant, vous m'entendez? Un profit outrageant. Et ils exploitent leurs semblables, profitant de la foi de leurs frères pour s'enrichir. Est-ce qu'on ne voit pas ça aujourd'hui? Les changeurs d'argent, ils ont aussi leurs arguments et c'est rapporté dans le journal local. Tous doivent payer la taxe du temple. Et on ne peut payer qu'avec des pièces agréées. On ne peut pas payer avec des pièces romaines. On ne peut pas payer avec des pièces grecques. On ne peut pas payer avec les pièces de Macédoine. Donc, ils doivent utiliser les pièces qui ont cours ici à Jérusalem. Et ils doivent payer leurs taxes au temple. Nous aidons les gens avec leurs besoins d'argent. Hypocrite! Tu fais un bénéfice outrageant. Quel est leur profit? Ah, Jésus le sait. Ils font un profit prohibitif, exploitant leur prochain. C'est la raison pour laquelle Jésus parle de ce marché en ces termes. Marc 11, 17. N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs? Ah! Jean 2, 6. Il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. À une autre occasion, il leur dit, rapporté par Matthieu 21, 13, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Waouh! Ça, c'est pas diplomatique. Non, on n'apprend pas la diplomatie auprès de Jésus. On apprend à dire ce qui est. Mais que faisons-nous, nous? Sommes-nous moins coupables? Moins coupables que les gens de ce temps? Écoutez bien ceci. Nous tous qui sommes engagés dans la prédication, engagés dans l'enseignement, engagés dans l'exhortation, qui sont engagés dans la musique, oui, qui sont engagés dans les chants, dans les cantiques, dans les chorales. Nous qui sommes engagés dans la publication d'ouvrages chrétiens divers, il y a quelque chose que nous devons savoir. Jésus n'est pas particulièrement intéressé par notre trafic et nos commercialisations religieuses. Si nous faisons de l'argent ou non par ce moyen, il se préoccupe principalement à ce que nous fassions l'œuvre de Dieu à laquelle il nous a appelés. Et pourquoi et comment nous le faisons? Voilà la préoccupation du maître. Au jour des comptes, lorsque les comptes seront rendus, sa question à tous les dirigeants d'église, à quelque niveau que ce soit, et aux dirigeants des familles, quelle que soit cette famille, comment et pourquoi avez-vous fait ce travail et dans quel but? Quel but recherchez-vous dans le ministère? pour un gain personnel? 1 Pierre 5, 2. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur. Vous le faites avec un désir de popularité, voulant bénéficier de la complaisance des gens pour recevoir beaucoup d'enveloppes, beaucoup d'argent, pour un bénéfice personnel, pour avoir des possessions multiples et diverses, un gain en prestige personnel, révérend pasteur, prophète, on s'entoure d'une auréole artificielle. Pourquoi? Parce qu'on est un, entre guillemets, homme de Dieu. Ne blasphémez pas, je vous en supplie. Vous cherchez une gloire vaine, c'est la raison pour laquelle vous êtes venu. Une gloire vaine, en notoriété et autre, sordide, dit le Seigneur. C'est un gain sordide. Ce gain n'est pas seulement pécunier. Ce gain peut être manifesté de toutes sortes de façons, par la recherche d'une gloire personnelle, d'une reconnaissance, d'une influence fabriquée selon le monde, recherche d'un bénéfice, sordide. Jésus semble dire, « Ma maison n'est pas un lieu où on vient pour faire de l'argent, mais c'est le lieu où on invoque le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Une maison de prière où les fidèles viennent pour adorer et présenter leurs prières et supplications. Et là, dans la maison de Dieu, ils apportent leurs dons libres et volontaires dans la maison de Dieu afin que sa maison grandisse, prospère et que le témoignage se poursuive. Et non pas pour l'enrichissement de quelques-uns. Le Nouveau Testament nous enseigne que Dieu n'habite pas dans un lieu fait de main d'homme. Il veut habiter dans nos cœurs. Dans 1 Corinthiens 3, 16, n'est-il pas écrit? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Vous êtes quoi? Saint! Ne détruisez pas le temple de Dieu qui est saint. Comment le détruire? Par les idoles, et les idoles d'argent, d'or, d'orgueil, de médisance, de tout ce qu'on veut, de fétichisme et autres. Combien les paroles de Jésus sont importantes. Mon cœur doit être une maison de prière et non une maison de trafic illicite avec des profits voleurs, avec des marges de bénéfices qui sont le double du prix du départ. On fait venir de la marchandise de Chine à bas prix et on en vend deux fois le prix qu'on a payé. Voilà, le voleur illicite. Voleur, pourtant on se dit chrétien. Rempli de préoccupations matérielles, mais un lieu habité par le Saint-Esprit. Ce cœur, de quoi est-il rempli? Par le Saint-Esprit ou par la préoccupation du gain qu'on peut faire durant l'année et de l'affaire qu'on va monter. Un lieu saint, dans lequel il y a un contact permanent avec le Seigneur de gloire qui n'est pas loin, mais qui habite dans ce temple qui est notre corps, nous dit la parole de Dieu, et non pas en contact avec toutes sortes de choses légitimes en soi, c'est vrai, mais des choses des choses qui périssent et des choses qui malheureusement remplissent notre cœur. Il n'est pas défendu de travailler et de faire du gain dans des affaires, non, mais pas un gain illicite et ne pas remplir son cœur à tel point que le Saint-Esprit n'y trouve plus de place. Remplir le cœur d'argent, d'affaires, de commerce et que sais-je encore. Remplir le cœur de choses qui ne sont pas prioritaires et qui ne doivent pas remplir nos cœurs et nos pensées, qui fait que le temple de son cœur soit souillé. Je me souviens d'avoir connu des gens qui se disaient pasteurs et missionnaires. Chaque fois que vous les voyez, ce n'est pas du Seigneur qu'ils parlent, mais c'est de l'argent. Chaque fois, l'argent, les affaires. Les affaires, le bénéfice, voilà. J'en ai rencontré d'autres encore. Chaque fois qu'on était avec eux, il n'y a qu'une seule chose qui les préoccupe. Ce sont les choses de la vie éternelle, les vérités qu'ils ont découvertes dans la parole, la communion qu'ils ont avec le Seigneur, la joie qu'ils ont à le servir. Voilà, ce cœur est rempli de la présence de Dieu, tandis que l'autre est rempli de bœufs, de moutons, de pigeons, de changements d'argent et de bénéfices outrageux. De bénéfices outrageux sur le dos de son frère et de ses frères, même dans la foi. Moi, j'ai connu des gens qui m'ont vendu des choses. Je me suis dit, c'est un frère, je lui fais confiance. J'ai acheté d'occasion et après j'ai vu que j'avais fait une très mauvaise affaire. Et c'est ainsi que j'ai appris. C'est ainsi que j'ai appris. Mes frères, quelle route allons-nous suivre pendant cette année ? Laquelle ? Que le Seigneur vous bénisse.